What is this, Connor? Easy, old man. She's not hurt?
No. Not wounded, sir.
Get
it easy.
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena. Proprio non mi ricordate.
Che non si fa chiedisci? Come fa chiedisci?
Cinémascope sur Fréquence 7 les vendredis, 12h10, 17h10. Autour de la table, trois invités et au menu de ce Cinémascope, pas moins de 4 films. Alors nous allons accueillir Cathy qui est présente. Bonjour Cathy.
Bonjour Laurent.
Olivier à ses côtés. Olivier, bonjour.
Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous.
Et Claude à mes côtés. Bonjour Claude.
Et ben bonjour Laurent et bonjour à toutes et tous.
Et on salue Sylvain aussi également à la technique.
Salut.
Bonjour Sylvain. Alors on va discuter de 4 films aujourd'hui. Le premier, ce sera avec toi Olivier. Tout le monde aime Jeanne.
Moi
pour
aussi.
Suivre enfin, avec tout le monde. Tout le monde pourra d'ailleurs aimer Jeanne et en parler. Il y aura aussi Libre Garance, Les Enfants des Autres et enfin Chronique d'une liaison passagère. Alors on va commencer avec ce Tout le monde aime Jeanne dont on devait parler la semaine dernière. Mais on l'aimait tellement Jeanne qu'on s'est dit on se la garde une semaine de plus avec nous. C'est Céline Deveau qui réalise avec, entre autres, Blanche Gardin.
Oui, nous avions conseillé à nos auditeurs d'aller voir ce film qui effectivement est intéressant, du moins m'a intéressé. Le pitch est assez simple, hein. Jeanne qui avait monté un gros projet écologique, c'est un tout petit peu vautré. Elle vient de perdre sa mère et d'hériter d'un appartement à Lisbonne dont elle va prendre non pas véritablement possession, elle va juste essayer de le transmettre à une agence. Jeanne est jouée par Blanche Gardin. Bonne surprise d'ailleurs, on n'a pas affaire à du stand-up, on n'a pas non plus affaire au jeu maladroit d'une stand-upeuse, on a véritablement affaire à une actrice qui joue avec délicatesse, sans trop en faire du tout. Elle est accompagnée d'ailleurs par Laurent Lafitte qui joue Jean, un personnage un petit peu excentrique, très agréable. Et Maxence Tual, son frère, le frère de Jeanne, qui incarne un petit peu le bon sens et la bienveillance pour Blanche, enfin je veux dire pour Jeanne plus exactement. Alors la critique présente souvent le personnage Jeanne comme une dépressive. Je pense que c'est allé un peu vite en besogne. Elle n'est pas médicalement dépressive. Elle est tout au plus déprimée. Elle est surtout dans un moment de sa vie où elle est obligée de remettre un petit peu tout en route au niveau professionnel, affectif, etc. Et donc c'est un peu compliqué. C'est un peu voilà. C'est plutôt ça. Et c'est plutôt ça que Blanche Gardin joue bien justement en faisant pas trop. Alors Céline Deveau, on la connaissait plutôt pour le court-métrage Gros Chagrin qui avait eu un prix à Venise dont le personnage principal s'appelait déjà Jean. Il y avait Contre-champ. Il y a eu moins de chance et moins de prix. Un programme de 6 cours et puis le repas dominical qui a eu en 2016 le César du meilleur court-métrage et dont le personnage principal est également Jean qui est obligé de se cogner un repas dominical. Donc comme le titre l'indique, est un repas dominical un peu pénible dans la mesure où Jean est homosexuel et que ça ne paraît pas très compréhensible pour les autres. Voilà, donc très beau court-métrage et donc on en retrouve les éléments dans le film Tout le monde aime Jeanne puisque ce film se distingue du reste de la programmation du fait que toute une partie du film est en animation. Céline Deveau a créé pour son film un petit personnage dessiné, une sorte de petits fantômes, de petits diables, de petits démons au sens des hommes de l'Antiquité, un lien entre les hommes et puis on ne sait pas quoi, peut-être les dieux, peut-être la conscience, peut-être. Enfin, c'est une voix plurielle qui sans arrêt joue un peu la conscience de Jeanne, joue un petit peu la honte de Jeanne, joue un petit peu le reproche, le persiflage, enfin, etc. Et ce monstre est assez intéressant. Enfin, c'est une jeune femme qui a des cheveux très très longs. Et Céline Deveau explique que ces très longs cheveux qui lui vont jusqu'aux pieds servent à Céline Deveau à transformer rapidement son personnage, à lui faire prendre subitement une expression, puis ensuite une autre après le passage derrière le rideau des cheveux. Comme ça, c'est vraiment très très chouette. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est quelque chose qu'on retrouve dans en particulier le repas dominical, c'est-à-dire une esthétique qui est un peu celle de la linogravure, vous savez. Ça consiste à la linogravure, évidemment, à prendre un morceau de lino et puis à le graver et à enlever tout ce qu'on ne veut pas laisser apparaître pour ensuite ancrer les parties qui ressortent et imprimer ensuite. C'est vraiment cette esthétique de la linogravure qu'on retrouve et qui s'explique dans la mesure où, effectivement, Céline Deveau utilise de la peinture acrylique ou des feutres sur une feuille transparente qui est rétro-éclairée par une table lumineuse, et elle gratte effectivement la peinture et le feutre pour faire apparaître son personnage qu'ensuite elle peut faire évoluer. Je vous assure que dans le long métrage classique, film, image, cette intervention de l'animation est vraiment bien, bien réalisée. Enfin, je veux dire, mes camarades confirmeront ou pas mon impression. Quoi dire de plus ? Une bonne musique et surtout une bonne mise en son, je dirais, de Flavien Berger, qui joue beaucoup, effectivement, sur le bruitage en même temps que sur la musique. Et encore une fois, un joli point de vue sur la difficulté, ma foi, de construire son existence, en particulier dans le cas de Jeanne, de construire son existence un petit peu contre sa mère, interprété de manière, enfin bon, ça c'est personnel, mais enfin je suis toujours, enfin, depuis que j'ai 8 ans je suis amoureux de Marthe Keller, la demoiselle d'Avignon, et donc c'est Marthe Keller qui s'y colle pour la maman de Jeanne et qui incarne très bien une mère extrêmement puissante, n'est-ce pas, et donc difficile à gérer pour Jeanne ensuite. Voilà, je crois que j'ai donné quelques bonnes raisons d'aller voir ce film. En tous les cas, moi, il m'a fait du bien.
Alors, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, alors juste pour dire en complément d'Olivier que, enfin, effectivement, ça pourrait être lourd, la façon dont, enfin, parce que donc les thèmes, le suicide, la solitude, la dépression, etc., le flop, c'est le cas de le dire, au niveau projet environnemental. Ouais. En fait, c'est traité, c'est de la comédie. Moi, je déteste la comédie, mais là, c'est très très bon. Il y a une finesse d'écriture assez exceptionnelle. Après, je trouve ce qui est bien traité, c'est qu'en fait, quand Jeanne allait à Lisbonne, elle se laisse emporter par une espèce de vide intérieur. Et qu'elle n'arrive pas à voir la beauté et tout ce qui se passe autour d'elle, ça. Donc ça, c'est vachement bien rendu. Après, Jean n'est pas la version féminine de Jeanne, puisque presque on dirait que c'est tout l'inverse, dans son aspect un peu fantasme, y compris les fringues, et la façon dont il élève sa nièce. Et puis, elle a reconnu que Céline Deveau, qu'en fait, elle a voulu parler dans son film de l'expatriation, parce que c'est ce qu'elle a vécu, et en fait, elle a essayé de répondre à la question, qu'est-ce que c'est que d'être une bonne personne ? Voilà. Et dernier point, Marthe Keller, que j'adore aussi, je rappelle qu'elle a joué dans un film avec Jacques Higelin, donc qui s'appelle Courra la banlieue, mais surtout elle est la partenaire de Dustin Hoffman dans Marathon Man de Schlesinger, dans lequel joue Laurence Olivier, et je me demande si c'est pas la famille à Olivier.
Non, mon père s'appelle pas Laurence mais Roger, c'est plus classique. Il est bon acteur pourtant.
Cathy, autre chose?
Vous avez déjà dit beaucoup de choses. C'est un premier film, effectivement, comme tu as dit, Olivier, qui mérite d'être vu pour son inventivité et le traitement du sujet, comme dit Claude aussi, qui peut paraître relativement lourd, mais traité avec beaucoup d'humour. Ça reste une comédie romantique, quelque part.
On s'y régale, a priori. L'un comme l'autre, vous êtes tous régalés. Donc, allez voir Jeanne, puisque puisque tout le monde l'aime.
Oui. Voilà.
Ce sera au Navire aujourd'hui à 18h, au dimanche à 17h45. Vous retrouverez aussi à Priva, au cinéma Le Vivarais aujourd'hui à 21h, ou au Ciné 7, mais ce sera la semaine prochaine pour ceux qui ont envie d'aller voir d'autres films et d'aller voir du côté de Ruyon ce qui se passe la semaine prochaine. On va retrouver Cathy pour Libre Garance, mais avant peut-être une petite bande-annonce, histoire de souffler. Voici la bande-annonce de Libre Garance dont on parle juste après.
Des gangsters, il ne sera retrouvé que quelques heures plus tard sur une route communale, lié aux brigades rouges.
C'est pas des copains de vos parents, ça. Des gauchistes.
Allez, venez, on rentre.
Mais non. Mais pourquoi?
La présence de ce criminel dans les environs.
Qu'est-ce que tu fous?
Rien, je vérifie que c'est pas un espion.
Et vous cherchez qui, en fait? Allez fouiller chez nous? On l'a caché dans l'île de la Petite.
Allez, les gars, allons-y.
Jacques, c'est pas les brigades rouges. Hein.
Excuse-moi, mais ça n'a rien de révolutionnaire. C'est juste du banditisme, c'est tout.
Le problème, toi, Simon, c'est que tu crois en rien.
Tu penses qu'ils vont faire quoi?
Je pense qu'il va avoir prison à vie. Mais à mon avis, si les flics le prennent, ils vont le descendre.
Garance, trouve pas maman.
Pourquoi maman, elle est pas là?
Parce qu'elle s'est tirée.
Mais où?
C'est rien, moi.
Mais je suis sûre que c'était lui.
Non, mais nous, on va pas être pris en otage. Venez, les filles, on se casse.
Ouais, tirons-nous de là.
Bon, Garance, qu'est-ce que t'as encore inventé, là? Vous croyez sincèrement que votre mère est assez tarée pour aller aider un terroriste et finir en tôle, c'est ça?
Oui. Je peux pas te le dire.
Ça ne te regarde plus tout ça, d'accord?
Je te déteste!
Tu dois le dire à personne.
C'est trop dangereux. C'est plus un jeu. Faut qu'il se barre. Sinon, ça va mal finir.
Bah oui, justement, si je l'aide.
Libre Garance, premier film, première réalisation également pour Lisa Diaz, un film libérant, librement, semble-t-il, inspiré, très librement, inspiré de l'affaire Conti des années 80, ici, dans les Cévennes. Cathy, ouais.
C'est Lola ou Lisa Diaz?
Ah, moi j'ai Lisa, moi.
D'accord.
Ah, bah peut-être Lola. Bah, voilà, bah, écoute, on va revérifier. Hein, on va vérifier
à
ça.
Contrôler. Non, mais Lisa, t'as raison, c'est Lisa. Je sais pas pourquoi. C'est moi qui ai fait une erreur. C'est
comme la sœur de Bart.
Lisa, exactement. Voilà. Donc, comme tu disais, le Libre Garance, c'est un premier film qui a été présenté au dernier festival de Cannes dans une sélection junior, puisque effectivement, le film part d'un point de vue plutôt des enfants, et en l'occurrence de Garance, une petite fille enfin, qui est proche de l'adolescence, qui est interprétée par Azou Gardao-Petito, et très bien interprétée par cette fille. Et au casting, on retrouve également Grégory Montel, qui est surtout un acteur qu'on a vu beaucoup dans la série 10% et qui tourne beaucoup maintenant au cinéma. Et Lolita Chama, qui, me semble-t-il, est la fille de Isabelle Huppert, si je ne m'abuse.
Oui, c'est ça.
Ainsi que Laetitia Doche. Voilà, donc c'est un film dont l'action se déroule dans les Cévennes, comme tu as dit. Lisa Diaz, je crois qu'elle est une personne qui est assez connue dans le coin. Enfin, Claude, peut-être tu nous en diras quelques mots. Qui repose sur cette histoire, effectivement, de braquage qui s'est passée dans les années, dans les années 80. C'est un film très lumineux parce qu'il se passe pendant un été, et c'est surtout un film qui va s'interroger sur l'héritage politique de cette époque, en fait, où là on retrouve des parents qui ont fait le choix de vivre dans les Cévennes, plus ou moins en communauté. Enfin, ça, c'est l'héritage des années 70. Et qu'est-ce qui reste de tout ça, en fait, C'est ces questions, en fait, qu'a envie de poser la réalisatrice. Qu'est-ce que cette génération a espéré? Où en est-elle? Et est-ce que, finalement, tout ça, ça fonctionne? Ces questions sur cet engagement qui a été pris à un moment et une époque qui est en train de changer avec des illusions sans doute perdues. Voilà. Mmh. Et on voit à travers les yeux de Garance et elle son propre engagement, puisque elle va être plus ou moins impliquée quand même dans cette histoire de terroriste, dont on va se cacher pas très loin de chez elle. Et c'est comment elle va réagir par rapport à ça, et comment... Et quel regard aussi porteront ses parents, ouais, je vais y arriver, sur elle, et puis ses choix de jeune ado par rapport à tout ça.
Donc c'est filmé aussi à hauteur d'enfant, j'allais dire.
Oui, c'est surtout filmé à hauteur de Garance, en fait, et puis il y a un petit groupe d'enfants. Qui évolue autour d'elle. Et puis, on a d'un côté les parents avec leurs illusions perdues et de l'autre, elle et ce qu'elle va devenir.
Libre Garance, ni l'un ni l'autre ne l'avez encore vu. Et non, on ne peut pas tout voir. Alors, on peut y aller aujourd'hui à 15h ou à 18h au navire, ou encore demain à 18h15 et 20h45. Vous avez 4 séances en l'espace de 36 heures. Donc, ça peut se faire. Ça se fera. Allez, les enfants des autres, bonne annonce, et puis on revient cette fois vers Claude.
Bon, allez, vous pouvez tout sortir dans le calme, s'il vous plaît.
Et toi, Rachel, pour les stages, t'as rempli le tableau?
Ah non, j'ai pas rempli le tableau, mais j'ai quelqu'un.
Une description?
Ah, 1m95.
Je suis amoureux de toi.
Et une petite fille de 4 ans.
Il est parti.
Ah, c'est elle qui l'a quitté. Papa, tu es génial, hein. Question. Je veux la rencontrer. Je veux rencontrer Lila.
Ça n'a rien d'évident, tu sais. Les enfants des autres, parfois.
Bonjour. Lila. T'as quel âge, Lila?
4 ans et demi.
Waouh. Peut-être faire un petit bisou?
Ça va, mon cœur?
Oui.
Bonjour Alice, moi je suis Rachel.
Maman.
Bonjour Rachel. Alors oui, les bisous, les bonjours à Rachel.
Pourquoi Rachel est tout le temps là? Moi je veux qu'elle s'en aille.
Mais si tu crois un jour que...
Elle a 5 ans.
Pas t'apprendre qu'à cet âge-là, ça veut absolument rien dire.
C'est vrai que tu fais semblant de pas comprendre que je m'attache à elle. À la fin de la journée, c'est vous, son père et sa mère, pour toujours. Que je resterai une figurante?
T'exagères. Moi aussi, je suis piégée.
Tu veux encore des enfants? Pas de problème, c'est quand tu veux, toi, t'es piégée de quoi, toi? Pour moi, c'est trop tard.
Si vous voulez un enfant, c'est maintenant.
Oui, on verra. La vie est courte et longue.
Oui, la vie est longue.
Les enfants des autres, là, on n'en est pas au premier long métrage. Je crois que c'est son 5e long métrage à Rebecca Zlotowski.
Alors, Les enfants des autres de Rebecca Zlotowski. Alors, encore un film, très bon film. Hein, on a parlé l'autre fois de Revoir Paris. C'est un film important, hein, je pense, parce que c'est aussi un sujet d'actualité. Enfin, la preuve, j'ai appris par hasard qu'hier à France Inter, au téléphone sonne, c'était justement sur les familles recomposées. Alors donc, c'est un film avec Virginie Efira. Et puis, alors, comme je disais à Olivier à la sortie du film, quand on pense qu'elle a commencé par faire la météo sur la 6 et maintenant a fait la pluie et le beau temps sur le cinéma français. Voilà. Il y a donc Roche Dizem qui, effectivement, a commencé sa carrière plutôt sur des rôles un peu physiques et, bon, genre truand ou flic. Là, il est plus quand même dans la finesse et dans la psychologie, je trouve, depuis Roubaix, une lumière. Alors, à noter, bon, ça c'est l'anecdote, il y a le père à Rebecca Zlotowski qui fait le père de Virginie Efira dans le film. Alors, le pitch, donc, Rachel, elle a 40 ans, elle semble complètement épanouie dans sa vie, donc elle adore ce qu'elle fait, son métier de prof, ses élèves, ses amis, etc. On voit d'ailleurs souvent des scènes, enfin quelques scènes qui se réfèrent à l'école. Donc je rappelle quand même que Rebecca Zlotowski a fait Normal Sup, elle est agrégée en littérature moderne et avant de faire la Fémis version scénario. Alors c'est un film, enfin moi je trouve qu'elle offre à Virginie Efira un super film qui est un peu tout en nuances, qui est quand même pondéré sur une thématique qui est importante, hein, qui est grave, parce qu'elle concerne beaucoup de gens, c'est en fait comment trouver sa place dans une famille qui n'est pas la nôtre, quoi, hein, puisque du coup, elle rencontre Roche Dizem, qui est divorcée, qui a une enfant de 4 ans et demi, Leïla. Ava, c'est presque le coup de foudre quand elle la rencontre, cette gamine, et le film, du coup, tout le film va poser la question de l'attachement, mais aussi avec le risque de l'effacement.
Quelle
place, voilà. Et ça m'a fait penser... Bon, j'aime bien les citations, à Rossellini, hein, un des pères du néoréalisme italien, qui définissait le néoréalisme comme ça. En fait, on suit une belle personne dans ses interrogations et ses tourments, et on s'aperçoit qu'une menace pèse au-dessus d'elle, qui inexorablement va l'anéantir. Donc on est vraiment dans ce cinéma. Pour continuer sur le fond, il n'y a pas que ce thème un peu comme ça de la famille recomposée. Je trouve qu'il y a aussi, on l'a entendu dans la bande-annonce, il y a le thème du désir d'enfant, de la maternité, mais aussi de l'horloge biologique. Alors juste une petite parenthèse, il faut savoir qu'à l'origine, Rebecca Zlotowski devait adapter un livre de Romain Gary, mais qui était plutôt sur les difficultés érectiles, on va dire, après un certain âge, et je ne dirai pas lequel. Et devant un peu la difficulté, elle a préféré, pas le tourner en version féminine, mais du coup on se retrouve dans une femme qui est confrontée avec l'horloge biologique qui tourne et qui fait qu'elle aura peut-être pas d'enfant. Donc c'est aussi ce problème là qui est posé. On retrouve toutes ces situations, moi je trouve qu'ils sont délicatement filmés, hein, c'est-à-dire que on voit aussi que indépendamment de ce couple et de cette famille recomposée, il y a aussi le poids des amis de l'ancien couple, etc. Donc la mère de Leïla est interprétée par Chiara Mastroianni, qui ressemble de plus en plus à son père, je trouve. Voilà. Et sur la forme, ça m'a fait beaucoup penser à Piala, c'est-à-dire que il avait cette forme, c'est une mise en présence physique très brute dans les corps, et dans les choses, hein, c'est très brut, c'était vraiment lié au cinéma de Piala, et il y a effectivement le fait de suivre une personne dans ses déambulations existentielles, affectives et ses questionnements. Et du coup, moi juste pour terminer, André Bazin, qui avait créé donc les Cahiers des cinémas, disait le but des films, c'est de donner l'illusion d'assister à des événements réels se déroulant dans une réalité quotidienne. Là, on n'est pas dans l'illusion. Ça, c'est vraiment la magie du cinéma moderne et de suite Rebecca Zlotowski. On est dedans. On est vraiment dedans. On est en immersion dans ce film. Donc moi, je vous conseille vraiment d'aller le voir parce que c'est traité sans tragédie. On n'est pas dans le pathos et on voit une fois de plus le talent de Virginie Efira. Enfin, c'est impressionnant. Depuis Adieu les cons, là, c'est assez impressionnant quand même.
Cathy, tout à l'heure, tu as réagi, tu as dit c'est surtout...
Oui, c'est vrai que cette question de la famille recomposée, bien sûr qu'elle est là, mais effectivement, ce qui porte le film, c'est Virginie Efira et ce personnage je crois qu'elle le dit à un moment dans le film, appartenir au monde restreint des femmes sans descendance. Et donc la crainte de passer à côté d'une immense expérience collective à laquelle elle est confrontée au quotidien, de ne pas avoir, elle, d'enfants.
Et elle s'occupe de son métier, des enfants des autres en plus.
Oui, exactement. Ouais. Et moi, j'ai découvert le film hier soir, en fait, pour rien vous cacher. Et j'ai été assez embarquée aussi par la... Ouais, la présence vraiment des acteurs, y compris Roche Dizem, et comme tu disais Claude, il a beaucoup de charisme, beaucoup de prestance. Il est là où il doit être et ce couple fonctionne très très bien. Dans les scènes, on a parlé aussi avec Olivier des scènes où ils font l'amour aussi. On sent qu'il y a vraiment quelque chose de très fort et je trouve que oui, le film il est très très réussi sur cette question des enfants des autres, sur la question de la maternité. On développera, je pense, avec un livre, un film, le lien avec
on ne rappelle pas assez souvent l'existence de cette émission qui pourtant
existe. Donc du roman de Romain Gary qui s'appelle Au-delà de cette limite, c'est ça? Au-delà de ce ticket, non?
Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable.
Exactement, voilà. Bon, j'adore le titre. Et puis à noter aussi la présence de Frédéric Wiseman, quand même, le grand cinéaste de documentariste qui joue le rôle du gynécologue, qui est très amusant de retrouver dans le film de Rebecca, au-delà de son propre père, que je trouve formidable aussi, très très juste dans le film.
Il fait un peu E.T. comme ça.
Ouais, elle le comparait à Maître Yoda, en fait. C'était carrément marrant de le retrouver dans ce personnage-là posé comme ça entre les jambes de Virginie Fira, et qui apparemment a été très intimidée par la caméra, enfin, n'a pas forcément l'habitude de se retrouver derrière. Mais ouais, c'est un film juste, sensible et à voir absolument.
Oui, je retiens le mot juste qu'on retrouve dans la bonne critique du journal Première, d'ailleurs. La justesse de ton, je crois que c'est véritablement une des choses qui peut qualifier ce film, au-delà évidemment de tout ce qu'on a dit Claude et Cathy. J'ajouterais de mon côté, bon, déformation professionnelle encore, que sous une apparente comme ça banalité de la situation, comme le disait Claude, c'est une situation que beaucoup d'entre nous connaissons. Il y a une vraie profondeur, c'est la réflexion sur le temps qui passe, ou plutôt sur le fait que nous passons, parce que le temps, lui, il reste obstinément présent, hein, nous passons et tous les événements passent, et ça prend une dimension, moi je dirais littéralement spirituelle et religieuse, parce que...
Plus métaphysique.
Et métaphysique, mais religieuse également, dans la mesure où la famille, les deux sœurs et le père se retrouvent à la synagogue pour Shabbat, et ça ajoute une dimension, une profondeur supplémentaire, de voir ce père et ses deux filles sans la maman, sous cette sorte de dé sous lequel il prie avant de pénétrer dans la synagogue. J'ai trouvé ça une très très belle image. Et je dirais que effectivement ça donne de l'existence une vision comme de il y a pas mal de scènes dans le film où Virginie Efira se prend la pluie, et effectivement la pluie tombe, elle ruisselle, elle court, comme d'ailleurs là je voulais en dire un mot sur la musique. La bande originale du film est excellente, elle est l'œuvre de Robin Couder, qui a fait les musiques des précédents films de Rebecca Zlotowski. Il y a du Shostakovich, j'ai découvert, et avec une grande joie, un pianiste de jazz de La Réunion qui s'appelle Gaël Rakotondrabé. Je suis désolé. Mais vous allez sur Cinésique, vous trouvez la BO, vous trouvez le bonhomme, vous allez sur YouTube, vous l'écoutez, vous êtes émerveillé. Et surtout, le film se termine par... c'est la version de Georges Moustaki, c'est quand même moins bien. Mais le film se termine avec la chanson d'Antonio Carlos Jobim, tellement bien interprétée en compagnie de Elis Regina, ça aussi vous pouvez trouver sur YouTube. Aguache de Mars, qui est une merveilleuse chanson, je ne vais pas me lancer, hein, mais c'est une anaphore qui, à 44 reprises, dit c'est, et c'est suivi de pas moins de 95 images, et ça se termine par son achat, Aguache de Mars, Fechando o verão e a promessa da vida no teu coração. Ce sont les eaux de Mars qui finissent l'été et qui sont une promesse de vie dans ton cœur. C'est comme ça que le film, je crois, se termine, et c'est très beau.
Bon, et bien maintenant, nous allons passer à la chronique d'une liaison passagère. Vous êtes deux à l'avoir vu, Olivier et Cathy. C'est le film d'Emmanuel Mouret avec un duo. Alors, Emmanuel Mouret, c'est Marseille, c'est ça, hein, c'est la réalisation à la Marseillaise, mais pas la Guédiguian, hein, ça n'a rien à voir. On est dans...
Ouais. Vous allez de Marseille, c'est ça.
Et on retrouve
Manhattan, c'est sûr.
Et on retrouve son on retrouve Vincent McCain qu'il avait déjà, qu'on avait découvert, je crois, avec le.
Les choses qu'on fait.
Et ouais. Même avant, avec Deux automnes, trois hivers, si je ne me trompe, parce que c'était lui.
Premier, ouais.
Voilà, sur son premier long métrage. Mmh. Et là, il donne à Vincent McCain comme compagne à la fois dans ce film et à l'écran, Sandrine Kiberlin. Et a priori, c'est plutôt bien réussi. Alors, on va se passer de la bande-annonce parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Dites-moi donc.
Mais je crois que moi j'aimerais bien que Cathy me donne son.
Alors je sais que Didier, lui, est emballé, hein, on aurait bien voulu l'avoir ici autour des micros parce qu'il adore le cinéma d'Emmanuel Mouret, nous l'a dit la semaine dernière. Dommage qu'il ne puisse être là.
Oui, effectivement, Emmanuel Mouret, c'est le triangle amoureux, c'est le sentiment, c'est la naissance des sentiments, c'est en tout cas, c'est son univers. Alors lui, il dit qu'il fait, quand il écrit, qu'il a l'impression de faire un film à chaque fois différent, mais en tant que spectateur, et quand on aime Emmanuel Mouret, on retrouve évidemment sa patte. Et là, depuis le dernier, qui était Les choses qu'on dit, Les choses qu'on fait, qui était vraiment brillantissime, on va retrouver évidemment cet univers-là avec beaucoup d'humour, encore une fois, puisqu'on a une rencontre entre effectivement Vincent McCain et Sandrine Kiberlin, qui elle se veut un peu la femme libre. Qui a fait sa vie et qui désormais a envie de séduire qui elle a envie et de faire un petit peu ce qu'elle a envie de sa vie sexuelle et privée, enfin tout ce qu'on veut. Et ça va tomber sur Vincent McCain qui alors lui est complètement, voilà, complètement à côté de la plaque. Lui c'est le mari modèle, le père modèle, enfin, et donc il comprend absolument pas ce qui lui arrive. Et c'est ça que je trouve savoureux en fait dans le film. Enfin vraiment la première partie elle est géniale quoi. Quand ils se rencontrent, qu'elle lui fait état de ce qu'elle projette. En fait, hein, avec lui. Et puis, petit à petit, voilà, ça va de plus en plus loin. Et puis, on se rend compte que tomber amoureux, c'est pas évident. Se dire que, oui, on est ensemble, mais finalement, on peut très bien se séparer à tout moment parce que finalement, voilà, on s'amuse, on a une petite relation comme ça. C'est pas aussi anodin que ça et c'est pas aussi facile que ça d'être détaché des gens dont on se rapproche. Et le film, c'est vraiment. J'ai l'impression d'avoir des petites notes de musique un peu partout avec des dialogues superbement écrits et hyper bien interprétés par ce couple. Après, il peut y avoir quelques longueurs, on peut trouver quelques défauts au film malgré tout, mais c'est relativement savoureux.
Ouais. Oui, j'accorde.
Je confirme complètement. D'abord, ça s'appelle, ça s'intitule. J'arrête pas de faire la chasse à cette faute terrible. Et je la commets moi-même. Comme quoi, l'œil, la poutre, la paille. Alors, c'est une chronique et ça rejoint bien le genre historique de la chronique. C'est-à-dire que sans avoir un souci a priori de synthèse, on fait défiler le journal, quoi, en quelque sorte. On a les dates de leur rencontre. Au début, ils se rencontrent une fois par semaine, le jeudi, si je me souviens bien. Parce qu'ils ont, ils se donnent une espèce de cadre pour, effectivement, à l'intérieur de ce cadre, faire strictement ce qu'ils ont envie de faire. Donc, on a une chronique qui se décline très rapidement, effectivement, en une sorte d'album d'images qu'on feuillette comme ça avec beaucoup de plaisir, parce que il y a effectivement les dialogues, les personnages, bientôt trois personnages, hein, avec Georgia Skyette qui vient faire la troisième, c'est le cas de le dire, dans un trio 3. Et donc, on a cet album d'images, effectivement, avec des paysages, des lieux, à mon avis, très très bien choisis pour ce film, en particulier des musées, très très beaux musées. Avec, au passage, on voit des œuvres qui sont dans l'histoire de l'art extrêmement importantes. Et alors, comme c'est un film effectivement qui est également beaucoup parlé, hein, évidemment, en même temps qu'on a une chronique, la chronique d'une petite histoire, on a l'album d'images comme un album de vacances qu'on présenterait à des amis pour dire voilà, on a fait ça, on a vu ça, etc. Et puis on a un journal au sens de gens, d'une personne qui écrirait son journal et qui raconterait par quel sentiment elle passe. Sauf que là, on n'a pas le journal d'une seule
personnes, Charlotte par exemple, Sandrine Kiberlin, ou Simon, hein, Vincent McKay, non, on a un journal à deux voix en quelque sorte, et ces deux voix, eh ben, elles s'articulent dans les dialogues que Mouret filme avec, je trouve, énormément de force. C'est un film qui pourrait assez rapidement passer pour bavard, et je crains, je sais que c'est un genre de cinéma, le cinéma bavard, que je crains au plus haut point, parce que je pense que je m'y reconnais, et donc là, je n'ai pas du tout été ennuyé, comme quoi, et au contraire, on a eu une écriture d'une très très grande finesse, une analyse des sentiments, je crois, d'une très très grande finesse, où, comme le dit Cathy, on sent des personnages qui se font attraper à leur propre jeu, d'une certaine manière. Ils voudraient bien seulement jouer, mais ils s'aperçoivent qu'en eux, des choses beaucoup plus sévères commencent à naître et à se développer. Donc moi, je malgré mes craintes a priori, j'avais un certain nombre de craintes, j'ai passé un excellent moment, extrêmement bon pour une réflexion douce comme ça sur la confusion des sentiments, pour reprendre l'expression de Stefan Zweig.
Chronique d'une liaison passagère. C'est vrai que même le titre ne donne pas envie de courir au cinéma pour le voir, et pourtant c'est une erreur. Le film d'Emmanuel Mouret à voir aujourd'hui au Navire, 18h, 20h45, demain aussi à 18h15. Et si vous n'êtes pas sur Aubenas, que ce soit Le Foyer à Rosières, Ciné 7 à Ruance ou Le Vivarais à Privas, attendez la semaine prochaine, ce film arrive. Voilà, ce sera tout pour ces quatre films d'aujourd'hui que vous nous avez décortiqués. Alors, comme tu disais il y a quelques instants, qu'on ne parle pas assez de cette émission du dimanche qui s'appelle Un livre, un film, je me permettrai quand même de signaler, et peut-être que tu iras, du côté du Teil, puisque demain, il y a la projection du film Les secrets de mon père, dans le cadre du festival de l'écrit à l'écran, et que c'est un film adapté d'une BD deuxième génération de Michel Kishka. Et à la suite de cette projection qui a lieu à 14h30, eh bien, Valérie Zenati, qui est scénariste, sera présente pour vous raconter les coulisses de ce cinéma. Donc à l'issue de la projection, vous pourrez comprendre ce métier passionnant, justement, de scénariste que vous racontera Valérie Zenati, notamment son rôle à travers ce film Les secrets de mon père. Donc ça, c'est demain, c'est au Teil, au cinéma Le Regain, donc rendez-vous à 14h30, puis la rencontre à l'issue à 15h40. Voilà, puis ça me donne l'occasion de signaler que le festival de l'écrit à l'écran a commencé hier et qu'il se poursuit jusqu'à la fin de semaine prochaine, ou le milieu de semaine prochaine,
oui,
plutôt.
Mercredi, je crois.
Jusqu'au 28. Oui, jusqu'au 28, exactement.
Avec un menu copieux.
Très copieux, c'est vrai. Merci à tous les trois. On se retrouve la semaine prochaine, 12h10, 17h10. Si vous êtes passé en cours de route dans cette émission, vous pouvez aussi la retrouver sur le site www.fréquence7.net, menu replay, et puis émission Cinémascope. Merci à tous les trois et merci à Sylvain.
Merci, bye-bye. Bonne semaine dans les salles.
Voilà, on va y aller. Alors la caméra passe.